Hoffmann, deux originaux. Vous savez, dit Théodore, que je séjournais quelque temps à G pour terminer mes études auprès de mon vieux oncle. Il avait un ami qui, malgré la disproportion de son âge avec le mien, me prit d'une affection singulière, à cause, j'imagine, de l'extrême gaieté d'humeur qui me distinguait alors, au point de dégénérer parfois en folie. Cet homme était du reste un des plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrés. Grondeur, chagrin, minutieux dans toutes les affaires de la vie et fort enclin à l'avarice, il était pourtant sensible, autant qu'homme au monde, à toute espèce de drôlerie et de jovialité. Pour me servir d'une expression française, personne n'était plus amusable ni moins amusant à la fois. En outre, et malgré la maturité de son âge, il était rempli de prétentions, qu'il manifestait surtout dans ses mises des plus recherchées, et toujours réglées d'après la dernière mode, ce qui le rendait passablement ridicule. Mais il était encore bien davantage, par son avidité insatiable de plaisir, par son ardeur inouïe à poursuivre et à épuiser toute espèce de jouissance. Il me revient à la mémoire deux traits caractéristiques de cette fatuité sénile et de ce besoin exagéré d'émotion vraiment trop comique pour que je ne vous en fasse pas part. Imaginez-vous que mon homme, ayant été invité par une société dont plusieurs dames faisaient partie à faire une promenade à pied pour visiter dans les montagnes des environs une chute d'eau remarquable, se para d'un habit de soie tout neuf, orné de superbes boutons d'acier poli, avec des bas de soie blancs, des souliers à boucles d'acier et aux mains des bagues de prix. Or, il arriva qu'au beau milieu d'une sombre forêt de sapins, les promeneurs furent surpris par un violent orage. La pluie tombait par nappes, les ruisseaux débordaient, inondaient les chemins, et vous devez penser dans quel état mon pauvre ami fut réduit en peu d'instants. Cependant, la nuit même, le tonnerre tomba sur le clocher de l'église Saint-Dominique à Angers et l'incendia. Mon ami était transporté d'aise au magnifique spectacle de l'immense colonne de feu qui s'élevait jusqu'au ciel et projetait une lumière fantastique sur tous les objets d'alentour. Mais il réfléchit bientôt que ce tableau, vu du haut d'une colline qui dominait la ville, devait produire un effet beaucoup plus pittoresque. Aussitôt, il s'installa de pied en cap, avec son cérémonial accoutumé, se munit d'un cornet de macarons et d'un flacon de vin fin, prit à la main un bouquet odorant, une chaise pliante et portative sous son bras, et se dirigea gaiement vers la hauteur en question. Là, il s'assit et contempla tout à son aise, avec ravissement, les progrès de l'incendie, tantôt flairant le parfum de son bouquet, tantôt croquant un macaron ou buvant un petit verre de vin. Ce personnage bizarre... « Oh, il me rappelle, interrompit Vincent, un drôle de corps que j'ai rencontré pendant mon voyage dans le sud de l'Allemagne. » J'étais allé me promener aux environs de B dans un petit bois où je rencontrais plusieurs paysans occupés à abattre un taillis fort touffu et à scier les branches de quelques arbres d'un côté seulement. Je demandais machinalement à ces gens s'il s'agissait de percer une nouvelle route. Mais ils me dirent en riant que je pouvais marcher droit devant moi et que je trouverais à l'issue du bois sur une hauteur quelqu'un à qui je pourrais mieux m'informer. En effet, je ne tardais pas à joindre un petit homme d'un certain âge, très pâle, habillé d'une redingote et d'un bonnet de voyage, avec une ceinture fort serrée, et qui regardait fixement, par une longue vue, vers l'endroit où j'avais vu travailler les paysans. Dès qu'il s'aperçut de mon approche, il ferma son instrument et me dit avec vivacité « Ah, vous venez du bois, monsieur, vous gardez la besogne, je vous prie. » Je lui dis ce que j'avais vu. « C'est très bien, » répondit-il, « c'est très bien. Je suis ici depuis 3 heures du matin. » Or, il pouvait être 6 heures du soir. « et je commençais à craindre que ces ânes, que je paie assez cher, ne me laissassent dans l'embarras. Mais à présent, j'espère que la perspective sera visible encore au moment favorable. Il rouvrit sa longue vue et regarda encore vers la forêt. Au bout de quelques minutes, un gros massif de branches s'étant tombé à la fois, on eut tout à coup devant soi, comme par enchantement, l'aspect des montagnes lointaines et des ruines d'un château fort, qui formait en effet, au rayon du soleil mouchant, un spectacle magique et enchanteur. L'homme à la longue vue n'exprima son ravissement que par des paroles entrecoupées. Mais après avoir joui du coup d'œil pendant un bon quart d'heure, il serra sa lunette d'approche et s'enfuit à toutes jambes comme s'il eût été poursuivi par une bête féroce, sans me saluer, même sans faire aucune attention à ma présence. J'appris plus tard que cet homme n'était autre que le baron de R, original des plus marquants, qui, de même que le baron fameux Grotius, poursuivait depuis plusieurs années, sans interruption, un voyage entrepris pédestrement, allant partout avec rage, à la chasse, pour ainsi dire, des bonnes perspectives. Quand, pour se procurer la jouissance d'un point de vue, il jugeait nécessaire de faire abattre des arbres ou de trouer une partie de bois, il s'arrangeait avec le propriétaire et soldait des ouvriers sans regarder à la dépense. Il voulut même un jour, à toute force, faire brûler une métairie entière qui, selon lui, masquait la perspective ou gâtait l'ensemble du tableau. Ben, il échoua dans son dessein. Du reste, une fois son but atteint, il consacre une demi-heure au plus à contempler le point de vue, et il reprend sa course incessante dans une autre direction, et sans jamais revenir au même endroit.